Je vais en parler avec notre chroniqueur science, Adam Brown, de l'Université d'Ottawa. Bonjour, Adam.
Bonjour, Michel.
Ça va être un défi pour toi, un grand scientifique, de parler d'un grand homme, parce que c'est pas facile d'abréger sa vie, hein?
Non, sa vie était tellement exceptionnelle qu'on devrait passer une semaine au complet à parler de lui, pas juste 7 minutes. Alors, on peut pas le donner justice, mais c'est très important à souligner que c'est un homme tellement important, puis un très, très grand chercheur, un très grand homme dans la planète, pour la société. Il était vraiment une idole pour moi, quelqu'un auquel je pouvais regarder pour chercher de l'inspiration pour ma propre vie. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de Stephen Hawking?
Je pense que c'est un grand penseur, un poète. C'est un poète de la science.
Oui. Il était non seulement un grand penseur, c'est-à-dire comme un homme très intelligent, supérieur à la plupart des humains dans l'historique de l'humanité, mais il était aussi passionné pour la science et la vulgarisation de la science, et donc également un autre aspect de sa vie qui me stimule grandement. Mais aussi, comme vous dites, il était très passionné pour l'humanité puis pour les autres organismes sur notre planète. Alors, on était vraiment chanceux de l'avoir avec nous pour le temps qu'on l'avait, puis il faut reconnaître également qu'on était extrêmement chanceux de l'avoir avec nous pendant nos vies à date, parce que c'était pas prévu comme possible lorsqu'il avait découvert qu'il était atteint de sa maladie.
C'est presque un miracle. Il a survécu 55 ans à la SLA. Pour préciser, c'est un peu ce que Maurice Bélanger, hélas, a eu, et il est décédé très rapidement. Il a pu se marier 2 fois, avoir 3 enfants là-dedans. C'est une maladie tellement terrible.
Oui, c'est ça. Donc, juste un autre aspect de sa vie qui est absolument incroyable, que c'est hors les normes de toute autre expérience. Écoute, quand il était à l'université dans les années 60, quand il était diagnostiqué avec cette maladie qui est dégénérative des neurones musculaires, on appelle ça la maladie de Lou Gehrig. Puis à l'époque, on disait qu'il avait 2 ans à vivre. Puis heureusement pour nous, il a vécu encore un autre 50 ans et plus. On peut attribuer sa survie probablement en grande partie, il y avait une progression anormalement lente de sa condition, mais je pense aussi qu'on peut attribuer en partie à sa conviction de ne pas se faire ralentir ou retenir par cette maladie qui est quand même assez paralysante.
Parle-nous un petit peu de sa recherche en physique théorique, là, parce que beaucoup de gens nous écoutent, ils ont entendu, ils ont vu le film peut-être, puis ils ont entendu parler de l'homme, mais c'est quoi la physique théorique?
Pas si je serais capable de l'expliquer. En fait, c'est tellement complexe que c'est un des domaines de la recherche scientifique qui est aussi peu connu à travers la science. Et c'est vraiment le domaine des très, très grands chercheurs. Hein. C'est le domaine d'Einstein et les grands scientifiques de l'histoire de la science. Pythagore, Aristote, Copernicus, Galilée, Descartes, Newton, etc. Donc, son nom, Hawking, ça va figurer comme étant là-dedans, mais écoute, pour tenter de donner une allure ou de faire justice envers sa recherche, je vais peut-être essayer un petit peu de décrire ce qu'il étudiait. Mais quand j'étais un étudiant au bac, il y a peut-être à peu près 20 ans, j'ai lu son livre de Le Bref Histoire du Temps, puis ça m'avait vraiment inspiré pour provoquer une curiosité envers l'univers, l'espace et le temps. Puis malgré le fait que j'ai probablement juste compris la moitié du matériel, c'était vraiment un don de lui d'être capable de rendre ça aussi accessible au public que possible, parce qu'en fait, écoute, cet domaine, c'est le domaine de l'espace, du temps, c'est le domaine de la gravité, de la singularité, des trous noirs, puis le Big Bang, c'est les mystères de l'univers, puis ce sont des genres de réflexions qui sont grandement théoriques, puis extrêmement complexes. Je pourrais pas nécessairement donner des grands détails de ces découvertes, mais il était une grande figure là-dedans, ayant poussé la connaissance dans ce domaine avec des très, très grands pas, dans un domaine qui est quand même assez complexe. Merci beaucoup.
Quelqu'un d'une intelligence moyenne, alors je me vois dans cette catégorie-là. Quand je me réveille la nuit, j'essaie de penser à ça, les trous noirs, le Big Bang, et pour être franc, plus je réfléchis, plus je suis presque en train de devenir fou, tellement que c'est complexe. Tu sais, je dis ça, là, et des gens comme Stephen Hawking en parlait, puis c'était comme normal. Est-ce que, si on avait à comparer Einstein et lui, il a poursuivi les travaux d'Einstein dans certains domaines?
Oui, poursuivi d'une certaine façon. En fait, son domaine spécifique, il était plus intéressé à les effets de la gravité, puis la singularité qui est associée avec les trous noirs, puis le Big Bang et l'origine de l'univers. Mais un de ses grands défis dans sa vie scientifique était de tenter de trouver un lien entre les recherches d'Einstein puis avec les autres domaines de la physique des particules, c'est-à-dire ce lien entre les théories de relativité qui est essentiellement les grands thèmes de espace et de temps puis la vitesse de la lumière, c'est-à-dire les études des grandes échelles de l'univers, et d'essayer de faire un lien avec les comportements au niveau des particules, parce qu'il semble avoir aucun lien possible entre le comportement des particules puis le comportement de l'univers. Alors, ils cherchaient de faire ce lien. Malheureusement, on n'est pas encore rendu là, mais ça prendra encore des grands penseurs dans le futur pour compléter ce travail, c'est sûr.
Et lui était convaincu, je crois, Adam, qu'on allait remonter jusqu'à l'instant zéro de l'univers, là.
Ouais, ben, il y avait beaucoup d'idées à propos de l'origine puis le futur de l'univers, si ça soit des Big Bang continus, que ça soit une expansion et une collapse, que ça soit un cycle qu'on est dedans, il y a des questions existentielles assez intéressantes là-dedans. Et je pense que un lien qui est quand même important à faire avec cet questionnement, c'est au niveau de notre place dans l'univers. Puis t'es très conscient de cela aussi. Et ça mène surtout dans les dernières quelques décennies de sa vie à avoir un certain focus sur l'humanité puis son futur, puis d'adresser les défis qu'on a comme espèce sur notre planète. Et en fait, ça démontre un petit peu son côté humanitaire puis le grand rôle qu'il joue envers la société aussi. Par exemple, dernièrement, une de ses idées les plus étonnantes par rapport à notre civilisation humaine, c'est qu'il disait qu'il fallait qu'on trouve un moyen de coloniser une autre planète d'ici 100 ans si on veut assurer le futur de notre espèce contre l'extinction, parce qu'il pointe envers les menaces actuelles comme, il y a toujours des menaces de guerre nucléaire, le changement climatique, on semble incapable de corriger volontairement, mais d'autres menaces potentielles.
L'alimentation.
Être capable de nourrir la planète et de le protéger contre des pandémies virales, etc.
L'eau, on pourrait manquer d'eau.
Pessimiste avec ça, mais il faut être réaliste aussi. Puis lui, lorsque ses idées restent grandement théoriques, ses propositions démontraient qu'il avait une conviction pour trouver des solutions et d'améliorer nos chances de survie et de prospérité dans le futur. Je pense que c'est quelque chose qui nous manque au sens large dans la société en ce moment, de chercher des leaders qui sont capables de nous amener vers un futur avec prospérité. Il y a trop d'anti-intellectuels en ce moment, la propagation des désinformations. Et on a besoin de plus en plus des humains avec une intelligence puis une compassion envers nous autres puis la planète, comme Dr. Hawking. Alors, si vous me permettez, je vais vous dire adieu à Dr. Hawking en vous rappelant un de ses dictons où il a dit que le plus grand ennemi de la connaissance n'est pas l'ignorance, mais l'illusion de la connaissance. Et je trouve que ce dicton ne pourrait pas être plus emblématique de ma propre mission personnelle comme vulgarisateur scientifique et une inspiration pour tenter de faire quelque chose pour améliorer nos vies, notre planète et l'univers.
Ben, je te remercie parce que c'est ce que tu fais chaque semaine ici à cette chronique, très généreusement d'ailleurs. Je t'en remercie. Je vais juste terminer avec un chiffre quand même. Il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui vendent 10 millions d'exemplaires d'un seul livre. Ça s'est fait sur le Cosmos en 88 et tous les autres. Alors, on lui dit adieu, mais on va aller le retrouver. On le sait, ça. Puis il faut faire quelque chose avant 100 ans.
C'est ça. Et merci pour l'opportunité de discuter de lui avec vous aujourd'hui.
Adam, un grand merci. Adam Brown est professeur à l'Université d'Ottawa. On se reparle la semaine prochaine.
C'est ça. À la
semaine prochaine. Merci. Au revoir. Bye.